Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
C'est toujours un plaisir de partager ces moments en votre compagnie à mes auditeurs et dans cette tranche radiophonique dédiée à l'actualité économique sur Radio de la Paix. L'actualité, c'est le sommet des BRICS qui se tient cette semaine en Russie. Nous parlons de cette organisation depuis quelques semaines et quoi de plus normal encore de faire un zoom sur cette organisation qui regroupe maintenant 10 pays du monde qui veulent peser de tout leur poids dans les débats économiques mondiaux. Faustin Ozon, notre expert en intelligence économique toujours au rendez-vous pour nous donner plus d'informations sur les BRICS plus et ce sera dans le cadre de la rubrique Regard sur la gestion économique suivra juste après la rubrique itinéraire et nous serons toujours à Daloa pour découvrir les hommes et femmes qui tracent leur petit bonhomme de chemin au niveau économique et ce que nous vous présentons sont dans la restauration, notamment dans la vente du garba, la tiki nationale à base de semoule de manioc. Mais bien avant tout cela, quelques informations sur les BRICS plus.
Le lexique économique. Le lexique économique.
Actualité sur les BRICS.
Le sommet des BRICS Plus pour cette année 2024 se tient dans ce mois d'octobre du 22 au 24 en Russie, précisément dans la région de Kazan, la sixième plus grande ville de la Fédération de Russie. Ça sera le 16e sommet de cette organisation qui verra la participation des nouveaux membres que sont l'Égypte, l'Iran, l'Émirat Arabe Uni, l'Éthiopie et l'Arabie Saoudite. Mais selon la responsable de cette organisation, nombreux autres pays ont exprimé leur intérêt à rejoindre le groupe. Des pays comme la Turquie, le Venezuela, la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, l'Algérie et le Nigeria, pour ne citer que ceux-là.
Regard sur la gestion économique nationale.
Pour ceux qui nous suivent, hein, depuis quelques semaines, on s'intéresse aux BRICS. Aujourd'hui, les BRICS veulent aussi faire parler d'eux au plan économique. Ce sont des puissances militaires, politiques qu'on connaît. Hein. Par exemple, la Russie, la Chine, connue sur le plan économique, l'Iran, voilà, qui est cité aussi comme pays membre nouvellement des BRICS, l'Arabie Saoudite et bien d'autres pays qui ont décidé de se mettre ensemble pour essayer de contrebalancer l'hégémonie des pays et donc du G7. Mais pourquoi cette bipolarité qu'on constate de plus en plus, M. Fosson-Nouzon? Bonjour.
Oui, merci. Comme je l'avais dit dans l'émission précédente, jusque-là, c'était la suprématie du dollar. Et quand on parle de suprématie du dollar, c'est qu'on parle de la puissance économique et financière des États-Unis d'Amérique. Et les autres ne veulent pas rester là en train d'observer. Donc les autres pays veulent prendre leur part du gâteau. Et la Chine, déjà, comme je l'avais dit, est très avancée puisque c'est le premier pays exportateur aujourd'hui au monde. Il dépasse les États-Unis dans ce cadre bien précis.
Deuxième économie du monde actuellement.
Du monde. Et les États-Unis étant la première économie du monde. Et donc, avec ce tableau-là que nous présentons, les autres pays se sont dit qu'ils pouvaient s'entendre entre eux pour évincer. Et c'est des bonnes guerres. Hein? Mm-hmm. Le G7, par exemple, qui jusque-là présentait les 7 pays les plus riches du monde. Et aujourd'hui, ils veulent mettre sur pied une économie unie qui pourrait, disons, se comparer à celle des États-Unis d'Amérique.
On peut dire que c'est la révolution des pays émergents.
Ah oui, moi je dirais même que c'est la révolution de la richesse. Parce que ce sont des pays qui sont très riches. Quand vous prenez un pays comme l'Arabie Saoudite, c'est un pays qui est immensément riche. Là-bas, on ne peut pas
grâce à son sous-sol.
Grâce à son sous-sol. Mmh. Et là-bas, on ne peut pas parler d'une difficulté en matière de processus de création monétaire. Mmh. Ils ont ce qu'il faut comme devise, comme monnaie de réserve pour pouvoir garantir la valeur externe de leur monnaie. Mais c'est la même chose pour la Chine. Là-bas, comme dirait l'autre, on n'en parle même pas. Ils ont tellement de devises. Même si ces dernières années, ils ont quelques petites difficultés financières. Depuis l'avènement du Covid. Mais toujours est-il que l'année dernière, ils ont eu un taux de croissance qui avoisine à peu près les 3%, et qui leur permet de faire succès dans le cadre de la gestion de leurs différentes politiques économiques et financières. Et donc, ces pays-là ont estimé qu'avec leurs nombreuses richesses qu'ils ont, ils pourraient permettre de mettre sur pied un nouvel ordre économique. Aujourd'hui, des institutions telles que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, etc., ils ont vu qui pouvait créer aussi d'autres institutions qui pourraient leur permettre de tenir tête à la gestion de la richesse sur le plan international.
On se pose la question, ces pays sont membres de ces organisations. Le FMI englobe tous ces pays, la Banque mondiale également. Est-ce que les politiques mises en place par ces institutions internationales sont décriées par ces pays-là qui amènent à une autre approche aujourd'hui ? Vous, en tant qu'économiste, c'est l'analyse que vous faites ?
Oui, vous savez que lorsque la plateforme devient plus importante en matière de gestion de la politique économique et financière, on fait beaucoup plus de résultats. Au lieu de s'en tenir à une seule institution, s'il y a d'autres institutions qui peuvent être aussi riches que les institutions que nous connaissons habituellement, les institutions dont font partie tous les États du monde, s'il y a d'autres institutions qui peuvent se créer à côté et qui ont cette capacité de richesse sur le plan mondial, il va sans dire que ces institutions pourront, d'une manière ou d'une autre, permettre à ces pays-là de développer leur richesse. En fait, c'est quitter le camp de la pauvreté pour aller dans le camp de la richesse, un peu comme le G7. Donc, c'est des pays qui viennent, pas pour remplacer le G7, mais pour développer, moi, je dirais, la richesse nationale. Déjà, il y a une richesse qui se développe au niveau des États-Unis, de l'Europe, du Japon, etc. Si d'autres pays se sont associés pour pouvoir développer d'autres formes de richesse, mais moi, je dirais que c'est une bonne chose. Plutôt que de rester pendu à une seule institution ou à deux ou trois institutions, s'il y a 4 ou 5 institutions qui se créent, mais cela permettra aux autres institutions d'abord de corriger les tirs, et puis cela permettra aussi de remettre en cause l'ordre mondial.
L'ordre mondial, là justement, le mot est lancé. C'est-à-dire que ces pays-là veulent revoir cette unicité de pensée, de politique économique. Ils ont d'autres projets ou d'autres stratégies selon vous? Est-ce que ces stratégies marchent? Parce que déjà, en interne, ils sont neufs, mais nous constatons que c'est un entre-griffes, un conglomérat de puissances moyennes, grandes, d'autres en devenir. Est-ce que tout ça, c'est homogène?
Bon, d'abord, il y a pas mal de difficultés quand même. Et comme je le disais tantôt, ce sont des pays qui ne se sont même pas encore accordés sur les modalités d'une monnaie commune. Bah, est-ce que c'est le yuan qui sera utilisé? Est-ce que c'est une autre monnaie qu'on va créer au niveau de ces pays, de la même manière qu'on a créé par exemple le franc CFA au niveau de l'UMOA? Est-ce que c'est un peu comme ça qu'ils vont procéder? Donc, comme je le disais, il y a quelques obstacles, et non des moindres, qui relèvent un peu de la disparité de ces différentes économies. Ces économies ne sont pas sur le même pied d'égalité. Il y a certaines qui sont plus importantes que d'autres. Il y a certaines qui regorgent de pas mal de devises, de pas mal de richesses, de pas mal d'or, l'or commercial comme l'or monétaire. Donc il va sans dire que devant ces géants-là, les plus petits auront certainement d'autres formes de difficultés. Donc il y a ces disparités, ces obstacles. Il y a tout ça qui ne leur permet pas jusque-là de s'accorder sur les modalités d'une monnaie commune.
Alors je sais donc un point d'achoppement, la monnaie commune, mais aussi en termes de perspective, est-ce que cette organisation qui s'ouvre à plusieurs pays au fur et à mesure n'est pas en train de pêcher sur l'angle politique? On a l'impression que, bon, pour pouvoir montrer son poids, nous, parce que nous parlions d'une vingtaine de pays qui sont en train de frapper à la porte, est-ce que l'objectif ici, c'est de s'agrandir en termes de pays membres pour pouvoir contrebalancer, alors que qu'on constate qu'au niveau économique même, ces pays qui demandent à intégrer cette organisation ne sont pas encore pour l'instant des puissances au vrai sens du terme.
Ah oui, bon, comme vous le savez vous-même, lorsqu'on crée une structure comme celle-là, déjà même ils ont mis sur pied une nouvelle banque en Chine, notamment à Shanghai, qui est un peu comme l'équivalent de notre Banque mondiale ou du Fonds monétaire international. Lorsqu'elle sera véritablement opérationnelle, elle va permettre à ses membres de bénéficier, disons, de cette richesse-là, qui deviendra un peu, je ne vais pas dire une richesse commune, mais ceux qui ont beaucoup plus d'argent pourront certainement aider ceux qui en ont moins. Et ils mettront sur pied des politiques économiques et financières dont l'objectif est de permettre à leurs différents membres de devenir un peu plus riches ou alors de plus en plus riches et de mettre de côté, comme je le disais tantôt, tout ce qui est pauvreté. Donc ici, l'objectif, c'est de s'enrichir, et s'enrichir davantage. Monsieur Koumé, vous n'allez pas me dire que si vous êtes dans une banque et que vous avez la capacité d'aller ouvrir un compte dans une autre banque, vous n'allez pas me dire que vous n'allez pas le faire. Ce n'est pas parce que ces pays-là émergent ou alors font partie du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale qu'ils ne vont pas profiter de nouvelles opportunités. Je ne dirais même pas que c'est de bonne guerre, mais c'est une loi économique et financière. Lorsque l'opportunité est là, lorsque vous avez la possibilité de vous endetter, lorsque vous avez la capacité de profiter de ces opportunités pour permettre à votre pays d'aller de l'avant, de se développer. Mais pourquoi est-ce que vous n'allez pas le faire? Donc, ces pays-là, les BRICS ou les BRICS Plus, ont estimé qu'ils pouvaient mettre tous leurs efforts ensemble, ils pouvaient mettre toutes leurs richesses ensemble, faire profiter des différentes réserves appartenant à ces pays-là aux autres pays et qui en sont effectivement membres.
Vous parlez d'opportunités. L'Afrique, le pays africain précurseur, c'est l'Afrique du Sud qui au début, disons en 2011, a intégré cette organisation. Il y a des pays comme l'Éthiopie après. Et puis, il y a certains qui frappent à la porte. On cite le Sénégal, on cite aussi le Nigeria. Qu'est-ce que l'Afrique peut gagner à être membre donc, de cette organisation?
Vous savez, je vais répondre à votre question d'une manière tout à fait simple. Lorsque vous êtes dans une banque depuis peut-être 5, 10, 15 ans, et puis il y a une nouvelle banque qui s'installe et qui vient vous faire beaucoup de propositions. Mais monsieur Koumé, vous n'allez pas me dire que vous allez mettre ces propositions de côté. Mais c'est exactement la même chose. Et parmi ces pays africains qui tapent à la porte des BRICS, beaucoup sont des pays qui sont endettés, dont le taux d'endettement dépasse pratiquement les 50, 60, j'allais même dire 35% de leur PIB. Alors, s'il y a d'autres structures, d'autres pays qui peuvent venir en aide à ces pays-là, mais je pense que ce serait une très, très, très bonne chose. Il appartient à ces pays de voir comment est-ce qu'ils vont agencer les difficultés financières de ces nouveaux pays qui veulent adhérer aux BRICS pour pouvoir leur permettre, bien sûr, d'aller de l'avant.
Pour l'instant, on n'a pas d'informations officielles sur la Côte d'Ivoire. En termes d'entrée ou de demande, la Côte d'Ivoire n'est pas encore citée.
Mais si vous voulez que je vous dise quelque chose là-dessus, je pense que nous appartenons à une union qui est l'Union économique et monétaire africaine. Et si nous voulons adhérer à certaines organisations internationales, pour moi, cela doit se faire dans le cadre d'abord de l'Union. Bon, il est vrai que certains partent d'une manière esselée, mais on devrait, à mon sens, tenir compte de la politique de l'Union.
En tout cas, merci pour ces précisions, Monsieur Fossé-Onozon. On reviendra un peu sur les BRICS, mais en ouvrant sur la monnaie pivot, qui est donc le dollar, pour voir un peu la poussée donc, des BRICS en termes d'impact sur cette monnaie. Pour l'instant, la monnaie de référence, ce sera dans nos prochaines émissions. Merci à vous.
Merci, Monsieur Koumé.
Itinéraire, le parcours de vie de notre invité.
Nous sommes dans un Gaba Drop et nous sommes avec les créateurs de cette structure Gaba Center et c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons rencontrer ces jeunes entrepreneurs qui, bien sûr, ont décidé de nous consacrer quelques minutes de leur temps. Ils sont tellement occupés, mais c'est cela aussi la vie de l'entrepreneur. Bonjour, vous vous appelez ?
Monsieur Doué Oulobo Baudelet.
Vous êtes assailli par les clients. C'est ça commencé comment cette histoire de Gaba Center ?
Gaba Center, ça a commencé les années universitaires, depuis du temps Mémouz d'abord, comme le Gaba était la prisée des étudiants. Bon, avec la crise, nous sommes revenus à Daloa. Nous avons dit, mais comment ne pas créer un espace où on va vendre du Gaba, comme c'est la première nourriture des Ivoiriens. Voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé.
Vous étiez étudiant en quoi ?
Bon, j'ai fait un master en sciences économiques à l'université de Cocody.
Vous avez décidé de plaquer tout ça pour vous intéresser aujourd'hui au Gaba. Pourquoi ?
Bon, en sciences éco, on apprend tout. C'est-à-dire que tu peux faire sciences éco et puis venir entreprendre quoi. Voilà, c'est ce qu'il y a eu. J'ai dit, vous pouvez m'installer dans la nourriture et j'ai choisi du Gaba.
On m'a montré une baraque pas loin d'ici. C'est par là que vous avez commencé, c'est en quelle année?
Le début c'était en 2012. Après la crise de 2011, voilà, on était là au quartier, on faisait rien. Donc pourquoi ne pas créer un espace? Et on a commencé à être 6 tables jusqu'aujourd'hui.
Vous avez commencé à combien de personnes? Vous seul ou bien vous étiez associé?
Commencé, on était 4 jeunes. Voici le deuxième qui est là. Il y a 2 qui ont eu concours, sont partis. Et nous 2 sommes restés.
Avec beaucoup d'abnégation, n'est-ce pas? Aujourd'hui, si on vous présente comme vendeur de Gaba, est-ce que ça vous gêne?
Non. Je suis pas. Je suis très optimiste. En fait, les Ivoiriens. Non, j'ai promis 500. Les Ivoiriens n'ont pas compris beaucoup de choses. Voilà, l'entrepreneuriat, ce n'était pas dans la culture des Ivoiriens. Voilà, donc, on dit vendeur de Gaba, moi, ça ne me dit rien. Tout compte fait, j'arrive à satisfaire ma famille et mon personnel.
Vous avez combien de personnes aujourd'hui?
Je travaille 15 personnes ici.
Alors, quand on gère une structure comme Gaba Center, c'est facile, c'est difficile?
C'est très difficile parce que les micro-emplois demandent assez de temps. C'est-à-dire que tu n'as plus le temps pour toi-même, tu oublies toujours de travailler. Donc, c'est un peu difficile, mais il faut y croire.
Comment vous gérez vos finances?
Bon, comme moi j'ai déjà une culture de la gestion. Donc on fait les dépenses quotidiennement, quoi. Si on a, aujourd'hui on a vendu, on fait passer une commande demain, cette marge on met de côté, ainsi de suite.
Mais dites-moi, le Garba s'obtient où? Daloué est assez loin donc de la zone où habituellement on sait que c'est Abidjan. Comment vous avez la matière première?
Bon, dans les débuts, il n'y avait pas, on prenait Abidjan. Mais maintenant, il y a une personne qui s'est installée ici, un champ froid de thon, uniquement du thon. Donc on se provient à Daloué.
Quand dans une jeune journée, vous avez de l'argent, comment vous répartissez pour savoir ça c'est mon bénéfice, ça c'est mon capital?
Ouais, je fais un travail suivi, j'ai mon bureau, j'ai un logiciel qui est là. Quand j'ai fini, je fais rentrer tout et puis ça me donne tout ce que je dépense.
En termes de projet aujourd'hui, Garba Center, c'est la consommation de Garba nationale. Hein. Garba c'est la tique, hein. Est-ce que vous avez des projets au-delà d'ici?
Oui, c'est des projets. Je vais rendre ici un centre gastronomique où on peut trouver un peu de tout. Pas seulement que du Garba, on peut trouver du poulet, du poisson, voilà, ça c'est mon projet, créer mon centre gastronomique.
C'est toujours à Daloa?
Oui, toujours à Daloa.
Pourquoi le choix de Daloa?
Bon, aujourd'hui, c'est un peu difficile de trouver la main d'œuvre. Je ne sais pas d'ouvrir pour ouvrir. Je vais ouvrir un Korogo ou bien, et puis il n'y a pas de suivi. Je suis obligé encore de prendre mes mêmes fonds de Daloa et puis l'argent diminue seulement. Donc pour le moment, tant qu'il n'y a pas de main d'œuvre, les jeunes qui sont encore conscients qui veulent travailler, voilà, on peut créer dans n'importe quelle ville, mais il faut avoir de l'homme.
Vous avez 15 personnes que vous gérez. Est-ce qu'il est arrivé où vous avez recruté des jeunes? Vous reprenez les jeunes? Quel est l'état d'esprit des jeunes aujourd'hui? Est-ce qu'ils savent que la vie, on l'obtient en travaillant?
Je pense bien que mes jeunes ont compris. Ceux qui travaillent, ils l'ont compris. Mais encore, les jeunes Ivoiriens n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore compris qu'il faut travailler dur. Et puis, c'est pas seulement que l'administration qui donne de l'argent. Nous tous, on parle de l'administration. Qui va les vendre? C'est pour ça que nous, les jeunes Ivoiriens, moi, personnellement, j'ai décidé de ne pas passer un concours. Je vais me concentrer simplement à faire du Garba. Et ça va.
Est-ce que vous encadrez les plus jeunes? Des jeunes sont venus vous voir. Grand frère, je veux faire comme toi.
Ok, j'ai installé au moins deux personnes. Un qui était à Diglo, il est venu se former ici. Il allait faire son Garba Drum. Ça va chez lui aussi.
C'est un créneau à suivre aussi. La restauration.
Oui, la restauration est encore mieux.
On va terminer cet entretien. Je vous sens assez occupé. Votre message à tous ceux qui vous écoutent?
Bon, mon message, est, d'abord, c'est aux jeunes. Mon premier message, c'est aux jeunes d'abord. On peut avoir les diplômes et puis venir créer. On peut créer de zéro, pas assez d'argent, quoi. De se concentrer, de d'abord bosser dans l'école, puis c'est ton diplôme, tu t'installes.
Vous avez commencé à combien pour l'histoire?
Bon, avec quoi? 200 000, hein? Avec 200 000.
Chiffre d'affaires aujourd'hui, potentiellement, c'est quoi?
Bon, je vais faire
Une fourchette. Hein.
La fourchette, on peut être dans les 2 millions, 2 à 3 millions.
Donc de 200 000 à peu près plus de 2 millions, ça veut dire que c'est un créneau qui peut intéresser.
Oui, ça peut intéresser les jeunes à venir. À venir, d'abord, il faut croire d'abord à l'activité. En toute activité que tu veux faire, tu entreprends, il faut croire. Avec un peu de sérieux, ça va aller.
Merci à vous. Cher monsieur, bonjour. Vous êtes associé?
Oui, oui.
Vous vous appelez?
Monsieur Yoboué.
Alors, il nous a parlé de l'histoire. Vous avez commencé ensemble, vous étiez quatre, vous ne restez que deux. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il s'est passé seulement que nous sommes tous des étudiants. Hein. Voilà, quand chacun a eu son petit boulot, à part ça, bon voilà, chacun est obligé de suivre. Donc, il peut dire que mes autres amis, en tout cas, ils se décalcassent quelque part là-bas. Bon, ça va chez eux, ça va chez tout le monde.
Et vous étiez étudiant quoi?
Lettre modèle.
Alors, vous avez décidé de laisser les livres et tout ça. Aujourd'hui, vous vendez du Garba. Vous n'êtes pas complexé?
Non. Je ne suis pas complexé. C'est la vie. Hein. C'est la première année que mon voisin même de terminal est devenu professeur. Il est venu ici. On échange comme si rien n'était. Ouais, moi, ça ne me gêne pas. Ça me gêne pas.
Alors, votre quotidien de travail, c'est quoi? Quand vous vous réveillez, votre associé, qu'est-ce que vous faites au quotidien?
Bon, au quotidien, je peux dire que quand on se réveille le matin, la première des choses, d'abord, on prie Dieu qu'il ait eu la clientèle. De deux, on prie Dieu pour que la santé y ait toujours. Et en tout cas, on prie Dieu encore pour que les activités marchent.
Vous, votre rôle dans l'association, c'est quoi?
Bon, moi, mon rôle, ça peut dire que salut le boss qui est là. Voilà, tu vois que nous sommes ici dans la cuisine, tous ici. Hein. Quand je n'ai pas là, c'est moi qui suis là.
Donc, le second.
Voilà, je suis le second.
Alors, en termes de gestion, quand l'argent rentre, comment vous fonctionnez? Vous payez des salaires ou vous vous dites, bon, l'argent est rentré, c'est beaucoup, donne ma part ou comment ça fonctionne?
Non. Ici, bon, il n'y a pas de capitaine dans un bateau. Hein. C'est lui seul qui réunit l'argent et puis, bon, fin du mois, partage de toute sorte que bon, chacun puisse un bon. Puis sur moi, être un peu satisfait.
Pas vu de quoi qu'un dans la gestion quotidienne de quoi on n'est pas content, on est associé, on a commencé ensemble, est-ce que vous...
Il y a des mois où forcément, c'est quelque chose qui va arriver. Ça, c'est inévitable. Parce que la preuve, c'est qu'il y a des mois où les mois de capital carême comme ça, ou bien les mois de... Qu'on appelle, je me rappelle très bien, lorsqu'il y avait le coronavirus, etc., tout ça, là, rien ne bouge. Donc, du coup, bon, si tu reçois une somme qui n'est pas à ta faveur, bon, tu veux le faire avec. Voilà, donc c'est un peu ça.
Vous êtes père de famille, c'est ça?
Justement.
Vous gérez votre famille avec ça, la vente de gars?
Ouais, j'ai une fille. Qu'est-ce que je veux faire avec?
Alors, quels sont vos projets, vous, les deux associés?
Le centre, C'est parce que, bon, tu sais, compte tenu du personnel, c'est qui cause le problème. Sinon, normalement, il doit avoir on peut dire, le Gaba Center 2 ou 3 ou 4 dans la cité des Antilopes. C'est, en tout cas, c'est vraiment important. Mais la jeunesse de maintenant, pour travailler dans ces coins comme ça, là, il y en a qui se sentent un peu complexés. Ils vont venir voir un exemple. Peut-être qu'il va venir voir, peut-être sa camarade va lui trouver en train de griller poisson. Il se sent gêné. Bon, nous, par contre, bon, nous, on s'en fout de ça. Hein.
Merci à vous, monsieur Yoboué. Amis auditeurs, c'était avec beaucoup de plaisir que nous avons découvert ces jeunes-là. Oui, des jeunes battants. Et c'est dans le cadre d'itinéraire. On se retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine. Merci à vous.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.